Un œil ailleurs, des nouvelles du monde. Sur Studio ZEF.
Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de revenir sur Studio ZEF, sur le plateau de Studio ZEF avec une nouvelle émission pour cette année 2017-2018. Et je vous présente tout de suite les personnes qui sont autour de moi. Une nouvelle émission que vous avez entendue donc, sur le générique « Un œil ailleurs des nouvelles du monde ». On va parler actualité internationale.
Mais promis, on parlera politique aussi.
Mais on parlera politique aussi. Oui, mais tu ne vas pas tout dévoiler. Bon, alors, la petite demoiselle qui vient de parler dans le micro, elle s'appelle Alice. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alice, tu vas présenter avec moi cette émission. Voilà, à la technique, nous saluons Jérémy qui n'a pas de micro devant lui, mais il nous fait un grand signe. Et alors, on va peut-être décliner un petit peu l'émission rapidement. Hein. On va commencer donc, Alice, tu vas nous présenter une revue de presse. Après, il va y avoir une interview. Notre invitée est à côté de moi. On en profite tout de suite pour la saluer.
Bonjour Elsa.
Bonjour à tous.
Bonjour Elsa.
On te présentera un petit peu plus en détail tout à l'heure.
Et on terminera par un petit coup de cœur cinéma du monde. Voilà. Et puis, entre-temps, bien sûr, Jérémy nous a concocté un programme musical très intéressant. Évidemment, c'est quand même un peu l'édito de Studio ZEF. Donc, vous allez avoir plein de belles choses dans vos oreilles durant cette heure, je l'espère en tout cas. On commence tout de suite par la revue de presse d'Alice.
De toute façon, ça va être... Ils vont faire une autoroute de des autoroutes de l'information.
Oui. Qui vont vraiment... Il y en a déjà pas mal, hein, des informations.
Oui, mais ils vont faire même des autoroutes de l'information. Vous en aurez même... ça passera par chez vous, ça passera par tout le monde.
Ah non, alors là, je suis...
De quoi, non?
Je suis vers le cadastre.
Et oui, c'est acté, notre œil ailleurs commencera donc par un petit tour de la planète totalement subjectif, histoire de se mettre en jambes. Alors pour cette première édition, je vous propose de commencer par une escale en Palestine, où le militant des droits de l'homme franco-palestinien Salah Hamouri a de nouveau été victime de l'arbitraire israélien. Tout a commencé le 23 août dernier, quand il a été arrêté par des militaires israéliens venus en nombre en pleine nuit à son domicile à Jérusalem-Est, sans raison apparente. Enfin si, au prétexte que l'homme de 32 ans aurait renoué des liens avec des organisations politiques considérées comme illégales par Israël. Alors Salah Hamouri n'est pas un inconnu. Hein. En 2005, il avait été condamné à 7 ans de prison pour avoir projeté d'assassiner un rabbin ultra-orthodoxe et pour appartenir au FPLP. Après avoir clamé son innocence, il avait fini par plaider coupable pour voir sa peine réduite de 14 à 7 ans. Il avait finalement été libéré en 2011 avec 1027 autres prisonniers palestiniens en échange de la libération du seul soldat franco-israélien Gilad Shalit, capturé par un commando palestinien en 2006. Salah Hamouri avait donc terminé sa peine 3 mois avant son terme officiel. Eh bien, l'association France-Palestine Solidarité nous a appris le 8 septembre qu'Israël vient de le condamner à purger ses 3 mois de prison, 6 ans après. Et oui, comme sa détention administrative avait été annulée après son arrestation du 23 août, les autorités ne pouvaient pas s'avouer vaincues. Elles ont donc retrouvé ses 3 mois de prison, histoire de le garder au chaud en attendant certainement de trouver mieux. Continuons notre petit tour aux États-Unis où le Washington Post du 7 septembre s'intéresse de près à un nouvel herbicide, le dicamba, utilisé pour lutter contre les herbes résistantes au glyphosate. Alors, le souci, c'est que le dicamba a la fâcheuse tendance d'être extrêmement volatile et de griller tout ce qui se trouve sur son passage. Du coup, dans l'Arkansas et dans tout le Midwest, c'est la cata. Le dicamba s'attaque aux feuilles des arbres et à toutes les cultures, notamment le soja qui n'a pas été génétiquement modifié pour y résister. Alors le paradoxe, c'est qu'il était justement censé nettoyer les cultures de soja envahies par les herbes devenues résistantes aux herbicides traditionnels. Alors chacun se renvoie la balle. Hein. Pour Monsanto et BASF, les fabricants, c'est la faute des agriculteurs qui ont utilisé une ancienne version du dicamba non homologuée, car très volatile. Pour les agriculteurs, ce serait plutôt la faute aux fonctionnaires d'État qui aurait autorisé la mise sur le marché du produit en l'absence de tests aboutis. Il faut dire qu'aux États-Unis, ce sont les fabricants qui réalisent les tests et les transmettent aux autorités. Résultat, le dicamba est considéré comme 75 à 400 fois plus dangereux pour les plantes qu'il touche que le glyphosate. Alors la morale de l'histoire, c'est Nathan Donnelly, le responsable scientifique d'une ONG environnementale qui la prononce, deux points ouvrir les guillemets. La prochaine étape se lara à la résistance à un troisième produit chimique, puis à un quatrième. Nul besoin d'être un génie pour savoir comment cela va finir. Le vrai problème ici est que l'on utilise dans les cultures des combinaisons de produits toxiques toujours plus complexes, avec des conséquences toujours plus complexes. Hop, un saut par le Pacifique et nous voilà en Chine avec une interview fort intéressante de Jizé. Pardonnez ma prononciation. Jizé, donc, qui est professeur de sociologie à l'Institut national des langues orientales. Et cette interview est parue dans Le Monde du 9 septembre. Alors, ce spécialiste du bouddhisme nous explique comment le pouvoir chinois a trouvé un argument marketing fort intéressant avec cette religion. Chacun sait que communisme et religion n'ont jamais fait bon ménage. Alors certes, la répression de la révolution culturelle des années 70 est loin, et les années 80 ont vu la religion refaire surface. Mais bon, pour le pouvoir chinois, elle avait vocation à disparaître avec la modernisation du pays. Sauf que ces dernières années, la Chine a compris tout l'avantage qu'il y avait à tirer du bouddhisme. Eh oui, c'est une religion internationalement reconnue et considérée comme pacifiste. Donc ni une ni deux, il n'y a plus qu'à raccrocher le bouddhisme à la civilisation chinoise. On transforme le discours religieux en discours politique et on obtient un régime plus blanc que blanc. En plus, il ne faut pas oublier que la plupart des monastères se trouvent dans des régions touristiques, donc ce sont toujours des devises à prendre. Alors, il faut savoir que le régime chinois organise même un forum mondial sur le bouddhisme tous les 3 ans, sans inviter le Dalai Lama, hein, histoire qu'on soit tranquille entre nous en famille. Comme quoi chacun a son produit marketing, Israël c'est la communauté gay, ben, la Chine c'est les bouddhistes. Enfin, pour assurer une transition avec notre interview à suivre, terminons notre petit tour en Égypte. Jeune Afrique nous apprenait vendredi 8 septembre que le site de Human Rights Watch était inaccessible via au moins deux fournisseurs d'accès Internet. Alors curieusement, la veille, l'ONG avait publié un rapport dénonçant le recours systématique à la torture sur les prisonniers politiques. Il semblerait d'ailleurs que le pouvoir égyptien soit coutumier du fait. Selon l'ONG égyptienne Association pour la liberté de pensée et d'expression, 429 autres sites sont inaccessibles en Égypte. De quoi peut-être consoler Human Rights Watch.
على الغصون غصون يا لالالي
Un œil ailleurs, des nouvelles du monde, sur Studio ZEF.
Alors Véro nous l'a un petit peu annoncé en début d'émission, le principe d'un œil ailleurs, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Et donc après ce petit tour complètement subjectif, eh bien on va passer à notre interview. On accueille aujourd'hui Elsa Petit-Hassan. Alors Elsa Petit-Hassan, c'est un petit peu une personnalité blésoise. Je suppose que nombre d'auditeurs la connaissent. Elsa, elle a été conseillère d'orientation psychologue au Centre d'information et d'orientation de Blois jusqu'en 2006. Elle intervenait au Collège Bégon et au lycée Sonia Delaunay. Par contre, ce qu'on sait moins et ce que j'ignorais, c'est que Elsa, tu es franco-égyptienne et que du coup, depuis ta fin de carrière, tu es donc de 2008, tu es reparti en Égypte et tu vis au Caire, à Alexandrie. Mais évidemment, c'était trop. Et tu vis à Alexandrie à peu près 9 mois par an. Et puis à Alexandrie, donc tu as créé la section des Français du monde et tu animes un club lecture à l'Institut français d'Alexandrie.
C'est ça.
Donc d'abord bonjour et puis merci d'essuyer les plâtres de cette première émission, de cette première interview. On prend nos marques. Alors on va parler d'Égypte. L'Égypte, en quelques mots, c'est un pays de 92 millions d'habitants. C'est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria et l'Éthiopie. L'âge médian y est de 24 ans. Il faut savoir qu'un Égyptien sur trois a moins de 15 ans. Alors, on en reparlera. Moi, j'étais assez surprise. Un taux de chômage de 13,6%.
Ça, c'est officiel.
Ah, d'accord. Parce que moi, ça ne m'a pas semblé énorme quand on connaît nos taux de chômage. Voilà. C'est la troisième puissance économique de l'Afrique, mais avec quand même un taux de pauvreté qui est énorme. Voilà, c'est pour ça que ce taux de chômage m'a semblé vraiment tout à fait correct. Bon, voilà. C'est pour présenter le pays en grande ligne. On va y revenir. Alors voilà, l'Égypte, vue d'ici, vue de mon petit prisme, les mots qui me viennent, c'est autoritarisme, c'est torture, c'est disparition. En gros, les nouvelles d'Égypte, elles ne sont pas très bonnes. Pourtant, en Égypte comme en Tunisie, bien, l'espoir était grand en 2011. Hein. Lors de la révolution arabe qui avait fait un petit peu tache d'huile. Mais bon, c'était déjà il y a déjà 6 ans. Tout cela semble un petit peu loin. Et puis, moi, ça me donne l'impression d'une parenthèse enchantée qui a été assez vite refermée. Alors, bon, tout le monde sait qu'une révolution, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une année. Mais là, quand même, on peut se poser des questions sur est-ce qu'il y a une régression au sein de l'Égypte ? Vu d'ici, c'est vrai que ça interroge vraiment. Donc avec toi, Elsa, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et puis on va essayer de voir aussi, de savoir comment vont les Égyptiens aujourd'hui. Alors dans un premier temps, déjà, en quelques mots, comment va l'Égypte ?
Eh bien en ce moment, pas vraiment bien. Je dirais même qu'elle va plutôt mal. En particulier depuis que le FMI a imposé ses conditions pour un prêt de 12 milliards de dollars à l'Égypte et a imposé l'instauration d'une TVA à 14% qui n'existait pas auparavant, une suppression quasi complète, totale des subventions sur les produits de première nécessité. Or, c'est incroyablement important dans la mesure où, comme tu l'as dit, un tiers de la population vit avec moins d'un euro par jour, ce qui fait que, par exemple, le pain était très subventionné et les subventions ont été supprimées, eh bien, il y a eu des pénuries de pain, en particulier en mars 2017, qui ont conduit à des émeutes dans les grandes villes d'Égypte.
D'accord.
Donc, en plus, il y a eu une flottaison de la livre égyptienne par rapport au dollar, ce qui fait qu'en une nuit, les Égyptiens se sont retrouvés avec un pouvoir d'achat diminué par 2. C'était en novembre 2016.
D'accord. Donc, économiquement, c'est pas la joie. On va y revenir. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé après 2011. Comment les Égyptiens se sont débarrassés de Moubarak, qui était connu pour la torture, pour l'emprisonnement, pour la contestation continuelle de l'opposition, enfin la répression, pardon, continuelle de l'opposition. Comment aujourd'hui ils se retrouvent avec un président Abdel Fattah al-Sissi qui finalement semble avoir les mêmes méthodes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est tout le problème d'un processus révolutionnaire. Toutes les raisons qui ont conduit à la révolte de 2011, du 25 janvier 2011, sont toujours là. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les mots d'ordre, c'était pain, liberté, dignité, justice sociale.
D'accord.
Eh bien, ces quatre mots d'ordre, on pourrait les reprendre absolument tels quels aujourd'hui. Mais c'est un processus révolutionnaire avec des avancées et des reculs et qui ont à voir avec la réalité politique du pays. Ce qui veut dire que effectivement, en 2011, l'armée ne s'est pas opposée à ce que le peuple exige le départ de Moubarak. Mais parce qu'il ne voulait pas d'abord que la succession se fasse d'une façon, dans la famille. Parce que ce qui était tout à fait, ce qui était dans les tuyaux, c'était que Gamal Moubarak prenne la place de son père qui commençait à devenir un petit peu trop vieux.
D'accord.
Ça, l'armée ne pouvait pas le supporter parce que Gamal Moubarak avait affaire avec les milieux d'affaires et l'armée se rendait bien compte qu'elle ne pourrait plus garder le pouvoir de la même façon. Donc, ils sont allés dans le sens de la révolte populaire et à ce moment-là, on a eu des mots d'ordre du style « le peuple et l'armée sont une même main », ça veut dire « sont unis ». Et effectivement, c'est ce qui explique en fait la chute relativement rapide de Moubarak.
Oui.
18 jours, 18
voilà,
jours.
Voilà, c'est ça. Entre, je crois que c'est en février.
Entre le 25 janvier et le 11 février, 18 jours qui ont conduit effectivement au départ de Moubarak.
Et puis une démission, on va dire, relativement, par rapport à ce qui s'est passé en Libye, en Tunisie. Voilà, une évacuation assez rapide d'Hosni Moubarak.
Voilà. Donc, pas de problème. Mise en place d'un Conseil supérieur des forces armées, un espèce de gouvernement comme ça, provisoire, mais on entend bien, Conseil supérieur des forces armées.
Ouais.
C'est bien l'armée.
L'armée
reste
là.
Il ne faut pas
là.
Oublier que c'est la colonne vertébrale de l'État institutionnel.
Oui, parce que j'ai appris qu'en fait, Moubarak était un général... un général
tous les présidents... Tous
précédents,
les présidents,
c'est
tous,
ça.
Depuis le premier, depuis Ahmed Naguib à la révolution de 52, ensuite Gamal Abdel Nasser, lui aussi était un militaire. Hosni Moubarak, alors j'ai oublié Sadat aussi était un militaire, Moubarak un militaire, et le Conseil supérieur des forces armées, avec Tantawi, qui lui aussi était un militaire, et maintenant, le seul civil, entre guillemets, c'est Sissi. Donc, le SCAF, ensuite, premières élections présidentielles quasiment libres. Et de fait, la seule opposition organisée et qui quadrillait tout le pays avec ses organisations charitables, etc., c'était les Frères musulmans.
D'accord.
Donc, ce n'est pas un hasard si, effectivement... Mohamed Morsi a été élu.
C'était en 2013.
Ça, c'était en 2002. Alors, il est parti en 2013, juillet 2013. Donc, c'était en juin 2012.
Juin 2012, d'accord.
Juin 2012. Et, mais il ne faut pas oublier de savoir qu'à l'époque, au deuxième tour, se sont retrouvés face à face Morsi et un fouloul, ce qu'on appelle les foulouls, c'est-à-dire les restes de l'ancien régime, Ahmed Shafik. Et en fait, il n'a gagné l'élection que par dépit, un petit peu, je dirais, comme peut-être en France, il n'y a pas très longtemps.
D'accord.
Hein, pour ceux qui ne voulaient pas voter Ahmed Shafik, ont voté Mohamed Morsi.
D'accord.
Avec quand même pas mal d'abstention.
Il n'y avait pas un si fort engouement pour les Frères musulmans qu'on a pu le penser, en
Absolument
fait.
Absolument pas. Et dans les grandes villes comme Le Caire et Alexandrie, au premier tour, c'est le candidat nassérien qui est arrivé en tête.
D'accord.
dans les deux grandes villes, c'est-à-dire 23 millions d'habitants au Caire, 10 millions d'habitants à Alexandrie, là, c'était le Nasserien, à Hamdin Sabahi, qui a obtenu la majorité.
Les frères musulmans étant peut-être plus présents, un peu comme partout dans le monde arabe, dans les milieux populaires, un petit peu abandonnés par l'État central. Non, même pas.
Je ne dirais pas ça. Ils sont effectivement présents dans les milieux populaires, mais il ne faut pas oublier que les frères musulmans, c'est la classe moyenne, commerçante, c'est plutôt ça.
D'accord. Hein,
et ça peut être aussi les ingénieurs, les médecins, les avocats, petite bourgeoisie qui essaye de grimper. Hein, mm-hmm. C'est plutôt ça.
D'accord. Bien. Ok.
Donc, Mohamed Morsi prend le pouvoir. Les législatives qui suivent donnent la majorité aux frères musulmans et aux salafistes. À peu près 40% du Parlement, c'est ça. Bien. Avec un très gros fort d'abstention. Très gros fort, et en particulier chez les jeunes,
d'accord,
qui n'ont pas voulu voter à ce moment-là.
Ah, ok.
Bien.
Les jeunes étaient à l'origine un petit peu des soulèvements initiaux.
Bien sûr.
Ouais. Donc voilà, ils se retrouvaient...
Comme partout dans le monde.
Ils se retrouvaient déjà plus
pas du tout.
Dans ce premier gouvernement.
Pas du tout. D'autant que le SCAF, le Conseil supérieur des forces armées, avait beaucoup réprimé des démonstrations. C'est les images qu'on a vues ici à la télé, à côté de Midan et Tahrir, là où il y avait les graffitis, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Enfin bon, c'est passé pas mal à la télévision. Alors donc, Mohamed Morsi devient président et très, très, très bêtement, parce que je pense que les frères musulmans sont bêtes, je le pense vraiment.
Ça a le mérite d'être clair.
Absolument. Les frères musulmans n'essayent pas de faire un compromis comme l'ont fait Ennahda en Tunisie.
D'accord.
En Tunisie, ils ont effectivement compris qu'il fallait passer un compromis avec les autres forces politiques parce qu'ils étaient... c'était pas acceptable qu'ils prennent le pouvoir seuls. Ils
D'accord.
l'ont essayé pendant un moment, mais ils se sont alliés avec d'autres forces.
Mm-hmm.
En Égypte, pas du tout. C'est une espèce d'arrogance comme ça des frères musulmans à se dire « Voilà, on est au pouvoir. » Et donc, on essaye d'infiltrer tout l'appareil d'État. On essaye de prendre tous les postes, en particulier chez les juges, au Conseil d'État, enfin, tous les postes clés. C'était pas possible. Ce
D'accord.
n'était pas possible. L'armée ne pouvait pas l'accepter. Ce qu'on appelle l'appareil profond, c'est-à-dire les services de renseignement, police, militaire, etc., vont évidemment contre. Et c'est à ce moment-là que advient ce fameux mouvement qui s'est appelé Tamarod en juin 2013, avec une manifestation que tous les observateurs décrivent comme la plus grande manifestation du monde.
D'accord.
Je veux dire, à Alexandrie, j'étais à Alexandrie à ce moment-là, on descendait de la rue, on ne pouvait pas marcher.
D'accord, noir de monde.
C'était figé.
Donc plus que ce qui s'était passé deux ans plus tôt, finalement.
Beaucoup plus puissant.
D'accord.
Et l'armée a laissé faire, évidemment. Et trois jours après, l'armée destitue Morsi. Et la répression, coup d'État militaire, et ils reprennent le pouvoir. Et on arrive avec Abdel Fattah al-Sissi comme président.
Et alors, Abdel Fattah al-Sissi, il a été élu. Du coup, il y a eu de nouveau des élections après ce coup d'État.
Oui, il y a eu des élections, effectivement, avec un très peu de participation, un très, très fort taux d'abstention.
D'accord.
Et avec des gens qui, effectivement, ont voté pour lui, en particulier ceux qui avaient peur des frères musulmans. C'est-à-dire
D'accord.
les minorités, style, par exemple, les Coptes, mm-hmm. quand même 10% de la population, ont voté pour Sissi. Et puis, certains laïcs se sont laissés avoir.
D'accord.
Ils ont pensé que l'armée leur permettrait une certaine liberté que les frères musulmans leur refusaient.
D'accord. Finalement, que l'armée revenait ramener de la...
Bon, enfin, on n'a jamais vu l'armée militer pour la liberté d'expression. Mais enfin, bon, voilà.
Bah, il faut une première atout, hein.
Absolument.
Bien sûr, en cherchant bien.
Et alors, c'est qui cet Abdel Fattah al-Sissi?
Bon, c'était un militaire qui était décrit...
Ah, donc militaire aussi,
complètement... Maréchal.
D'accord.
Attention.
Ah oui, c'est vrai.
Maréchal. Et qui était décrit à l'époque... au moment où Morsi était président, comme quelqu'un de plutôt favorable aux frères musulmans et qui avait fait toutes ces, enfin, pas mal d'études aux États-Unis et donc avec un lien assez fort avec les États-Unis.
D'accord. Voilà. Donc finalement, pas tout à fait opposé aux frères musulmans qu'il est venu chasser.
Pas du tout. Il était décrit comme un pieux musulman, une femme voilée. Enfin bon, pratiquement toutes les femmes sont voilées, donc c'était pas très compliqué. Mais oui, plutôt proche des frères musulmans.
D'accord.
Et en fait, non.
et quand il est arrivé, tu nous as dit, bon, fort taux d'abstention, mais les Égyptiens, là, ils y croient?
Au début, oui.
Ouais.
Au début, oui.
Ils se sont dit processus démocratique,
absolument.
On reprend tout à zéro. Et
ah oui, au début, ils y ont cru, mais dur comme fer. On était très peu à penser, dès le départ, que c'était mal parti. Mais c'était difficile de se faire entendre, parce qu'il y avait une volonté aussi... quand on a envie que les choses aillent mieux, bon, on espère. Hein, on espère.
Ouais, hein, ouais.
On espère. Voilà.
Et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a fait que ça a dégringolé, que la répression a repris le dessus? Il y a une chasse, vraisemblablement, si j'ai bien compris, aux frères musulmans, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a une chasse générale à toute forme d'opposition. Qu'est-ce qui lui a pris, Al-Sisi?
Eh bien, il se défend, il fait en sorte de ne pas se retrouver dans la situation de Moubarak.
Mm-hmm.
C'est une trouille inouïe. Là, la police, l'armée, tout l'appareil sécuritaire a une trouille inouïe du peuple. Ils savent très bien que les conditions n'ont pas changé. Mm-hmm. Et je veux dire, on peut reprendre, comme je le disais au début, exactement les mêmes mots d'ordre du 25 janvier de 2011.
Oui.
On peut tous les reprendre, un par un.
Donc en fait, il n'y a que le peuple qui a cru, mais eux, finalement, on est entre nous.
Absolument.
Et on reproduit...
Bien sûr.
Et alors, pas de pain, c'est quand même, ce que je disais, la troisième puissance économique de l'Afrique. Il y a le canal de Suez qui ramène quelques devises. Non, pas tant que ça.
Pas tellement, parce que justement, c'est une erreur de... Enfin, bien sûr, c'est une source de devises importante, mais avec la baisse du coût du pétrole, il est parfois plus intéressant de faire le tour par le Cap de Bonne-Espérance que de passer par le canal de Suez avec les frais de passage que
d'accord,
ça coûte.
D'accord.
Donc, effectivement, l'Égypte a beaucoup compté sur le canal de Suez,
oui,
puisque Sicile a même doublé
oui,
la première année.
Oui, voilà, c'est ça, en 2015.
Mais c'était une erreur. C'était une erreur.
D'accord. Enfin, il y a quand même des richesses énormes en Égypte. Et le peuple n'a pas de pain.
C'est toujours un petit peu ce qui se passe dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays. 1% ont beaucoup, 99% n'ont rien.
C'est ça. D'accord. Alors, pas de pain. Moi, je suis allée voir récemment, je ne sais pas, Vérou, si tu as vu ce film, Le Caire confidentiel. Voilà. J'avoue que j'ai été assez atterrée. Je n'ai jamais mis les pieds en Égypte, je ne sais pas. Mais il y a une image de la corruption assez désastreuse. La corruption à tous les niveaux, particulièrement dans la police.
Partout. Non, pas seulement la police, je rassure.
D'accord,
n'importe
le
où.
Film
n'importe
montre
quelle,
ça.
N'importe quelle structure étatique... ou para-étatique, il faut donner de l'argent à chaque fois.
D'accord.
À chaque fois.
C'est le fonctionnement normal.
Normal.
Et c'est institutionnalisé vraisemblablement, d'après ce qu'on comprend.
À tous les niveaux.
Donc pour les auditeurs qui ont vu Le Caire confidentiel, on n'est pas si loin de la vraie vie.
Ah non, mais on plaît dans la
ah,
vraie
d'accord.
vie. Hein, je confirme, hein, j'ai fait faire une carte d'identité il n'y a pas très longtemps. Il a fallu que j'arrose pratiquement à chaque fois hein, pour avoir... une carte d'identité à laquelle j'avais droit étant citoyenne égyptienne.
D'accord, d'accord. Donc faut avoir quelques moyens quand même si on veut faire les démarches.
Ça va plus vite quand on a un peu de sous. Quand on n'a pas de sous, ça peut durer longtemps.
D'accord. Voilà. Donc en fait, finalement, le problème de l'Égypte, qui est comme de nombreux pays, c'est des ressources, mais qui sont concentrées dans les mains de quelques-uns et qui n'ont surtout pas envie de partager, si j'ai bien compris.
C'est tout à fait ça.
Et l'armée avec quelques maréchaux. L'armée doit participer un petit peu à ce système, j'imagine.
Mais complètement. Voilà. L'armée, il faut savoir que l'armée en Égypte, c'est 40% de l'économie nationale. 40%, parce que, aussi curieux que cela puisse paraître, l'armée fait fabriquer, des casseroles, fait construire des hôtels, a une chaîne de cafétérias à Alexandrie sur la Corniche. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font tout. L'armée a ses propres entreprises, ses propres usines.
D'accord. C'est-à-dire que l'armée investit dans des hôtels, commerces et ramasse le.
Voilà. D'accord. Et quand c'est quelque chose d'industriel, par exemple, là, il y a l'exemple récent des carrières de marbre. Il y a pas mal de marbre en Égypte. Eh bien, ils vont mettre à bas toutes les carrières privées, parce qu'il a suffi d'un décret de Sisi pour dire que c'était l'armée qui détenait le pouvoir de donner ou pas les possibilités d'exploitation,
ouais.
D'une part. D'autre part, ils vont avoir leurs propres entreprises d'extraction du marbre, mais où on fait travailler qui ? Les conscrits. Les conscrits, on ne les paye pas, pratiquement pas. Donc, les prix sont évidemment bien plus compétitifs que ceux des autres. Et voilà. Et voilà comment ça se passe.
Donc, c'est une nationalisation qui pourrait être vue, mais finalement, au bénéfice de l'armée.
Voilà.
Et des têtes pensantes de l'armée, mais le peuple attend encore d'en retirer des bénéfices.
Alors, on garde un petit peu le contrôle parce que quand même, ça redescend par ruisseau. Alors, évidemment, à chaque fois que ça descend d'un cran, il y en a un petit peu moins. Mais on arrive à arroser quand même assez bas dans la hiérarchie militaire, ce qui fait qu'il y a une certaine indulgence par rapport à l'armée, et c'est très compliqué d'expliquer quel est le rôle réel de l'armée. D'accord. Dans ce pays. C'est très difficile pour les partis politiques, c'est très difficile pour les syndicats.
D'accord.
Très, très difficile.
D'accord. Alors, on parle un petit peu moins des frères musulmans. Du coup, j'ai cru comprendre qu'ils étaient assez, pourchassés. Pourquoi ? Comment ? Ils sont devenus quoi, ces frères musulmans en Égypte ?
Les frères musulmans, il faut savoir que c'est quand même très vieux en Égypte. Ils ont une vieille histoire. C'est là où ils ont été créés par Hassan el-Banna à Ismaïlie, le long du canal de Suez. Et c'est un parti qui a toujours été très important en Égypte. Alors, plus ou moins important, ils ont eu des phases d'expansion et des phases plus où on les a réprimés. Gamal Abdel Nasser et Sadat ont été frères musulmans.
D'accord.
Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, les officiers libres de 52, un certain nombre d'entre eux ont été frères musulmans. Mais dès qu'ils se sont aperçus qu'ils pouvaient prendre un peu le pas sur leur propre parti, en partie, Nasser les a pourchassés d'une façon impitoyable. Quand Sadat est arrivé au pouvoir après Nasser, il leur a fait les yeux doux parce que c'était une façon de contrer les Nasseriens dont il voulait absolument se débarrasser, et surtout en quadrillant l'université et les lycées et les collèges, etc. Il s'agissait de ramener la jeunesse égyptienne vers des valeurs musulmanes et de quiétisme, c'est-à-dire on ne s'oppose pas au régime, etc. Bien mal lui en a pris, parce qu'effectivement, le mouvement laïque a été décapité, ça c'est sûr. Les socialistes, les communistes, tout cela, ils se sont trouvés en camp de concentration, mais il a quand même été assassiné par quelqu'un de la Gamara Islamiyya, la confrérie.
D'accord.
Bon, donc, bien fait pour lui, d'une certaine façon, voilà.
Et alors, on pourrait penser que nous, ici, on a tendance à faire amalgame, peut-être, tu vas me dire si je me trompe, entre frères musulmans, une vision très rigoriste de la religion, les femmes voilées, etc. Est-ce que les frères musulmans partis Les femmes ont... tu nous as dit qu'elles étaient voilées, tu vois où je veux en venir, mais est-ce que les jeunes ont un peu plus de liberté? Il y a... Non. Non.
Alors,
les auditeurs ne voient pas le visage d'Elsa, non. Mais la réponse
elle a
est
fait
non.
Un signe de droite à gauche, et c'est vrai que et vice versa. Ouais.
Non, bon, je veux dire, les frères musulmans, ils sont en très grosse difficulté parce qu'ils sont en butte à une répression féroce contre laquelle d'ailleurs je m'oppose vivement. Mm-hmm. Je ne partage pas, vous avez bien compris, les idées des frères musulmans. Il n'en est pas question, mais je suis pour la défense des droits de l'homme et donc je lutte contre la répression qui les touche. Maintenant, ils sont dans une telle situation de répression, on les pourchasse vraiment, mais d'une façon absolument honteuse, quand on les a chassés des places qu'ils occupaient pour lutter, pour protester contre la destitution de Morsi. Il y a eu des assassinats en masse, qui sont absolument, c'était un bain de sang, qui est absolument inacceptable. Donc du coup, ils sont extrêmement affaiblis, même si ils ont encore de l'influence. Tellement affaiblis qu'évidemment, il y a des contradictions en leur sein, et il y a des clivages au sein des frères musulmans, en particulier entre les jeunes, qui pensent que la politique légaliste par les urnes, d'accès au pouvoir par les urnes, est complètement dépassée, la preuve, puisque Morsi a été destitué, et qui sont donc tentés par des mouvements plus extrêmes, en particulier le groupe Hasm, qui commence à avoir de l'importance, ou par la province du Sinaï de l'État islamique, de Daesh.
D'accord.
Hein, certains donc sont intéressés par ça. Et puis l'autre tendance, qui sont plutôt les vieux, qui sont soit en tôle, emprisonnés, 60 000 prisonniers politiques, ou alors qui se sont enfuis juste à temps et qui se retrouvent au Qatar en ce moment.
D'accord.
Donc, ils sont en très, très mauvaise situation. D'accord. Mais je connais les frères musulmans depuis le temps. Je sais qu'ils vont renaître.
Ils renaîtront.
C'est sûr.
On coupe la tête, ça reviendra.
C'est sûr.
Et finalement, là, si on résume, ce qui est reproché aux frères musulmans, finalement, c'est d'avoir un peu trop d'emprise sur le pays et d'être une force contestataire. C'est pas tant leur façon de voir le monde et la vie.
Oh,
et,
non, pas du tout.
On n'en est pas là.
Pas
en
du
est
tout.
À...
Je veux dire, une des premières mesures de Sisi, en tant que président, c'était assez comique, c'était de mener avec El-Azhar, qui est la grande autorité sunnite pour tout le monde musulman, de lutter contre l'athéisme.
D'accord.
Ah oui, c'est okay. Quand même...
Ouais,
bon,
en effet.
Parce que l'Égypte est considérée... Enfin, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur le sentiment de religiosité des pays de la région. L'Égypte passait en tête, loin devant l'Arabie saoudite, contrairement à ce qu'on pourrait
d'accord,
croire.
D'accord, en effet.
Bon, donc, les gens ont un sentiment religieux, aussi bien les musulmans que les coptes.
Que les coptes.
Bon. Mais avec la révolution du 25 janvier 2011, on va chercher, il y a Internet, il y a Facebook, etc. Bon, il y a des jeunes qui se sont aperçus que peut-être la religion, c'était peut-être pas si bien que ça, avec des tentations, effectivement, de se dire laïque, de se dire athée.
Carrément.
Un mot qu'on n'aurait même pas pu entendre publiquement avant. Mmh. Et encore maintenant, il y a des gens qui se réclament de l'athéisme, ce qui est d'un courage extrême.
D'accord. Ah ouais,
extrême.
On en est là. D'accord. Et alors justement...
Donc les femmes, excuse-moi parce que je n'ai pas répondu sur les femmes, elles sont toujours voilées.
Oui, voilà, c'est ça. Les femmes, elles n'ont pas encore gagné...
Mais j'en ai vu qui se sont dévoilées. Il y en a qui se sont dévoilées justement à la suite de 2011. Et bon, et puis je pense que ça va... C'est très rapide, je veux dire, un changement d'idéologie, de prise de conscience. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de voir en quelques jours après le 25 janvier, comme les gens parlaient partout dans la rue, un petit peu. Alors évidemment, moi, je suis une vieille, donc je peux parler de mai 68. Mai 68, c'était ça, en quelques jours... Bon, voilà, il y avait plein de débats. Et,
voilà, les débats étaient ouverts.
Donc, moi, j'ai espoir encore, bien sûr.
Et alors, justement, une question que tu as abordée rapidement à propos du Sinaï, de l'État islamique. On a pas mal parlé d'attentats terroristes. Alors, c'est vrai que depuis, la répression du pouvoir égyptien a pris le pas dans les médias là-dessus. On en est où en Égypte avec le terrorisme?
Alors, le terrorisme est très, très nettement localisé au Sinaï, parce que c'est une région qui, depuis toujours pratiquement, a été une région complètement ignorée par le pouvoir central.
Un petit peu abandonnée, d'accord.
C'est une région qui est très pauvre, hein, mm-hmm. ce sont des montagnes, c'est le désert. Il y a juste quelques petites oasis, et puis il y a la côte extrêmement touristique, Sharm el-Cheikh, Dab, etc., Kosseh. Bon, et puis c'est une région où les tribus aussi, le système tribal existe encore,
d'accord.
Ce qui n'est pas le cas. Dans le reste du pays. Et donc, ils se mobilisent en tant que tribu. Ils sont évidemment attirés par ceux qui leur promettent de mettre en place le califat. Hein. Donc, Daesh, province du Sinaï, est très, très active.
D'accord.
Ils ont réussi quelque chose quand même d'assez terrible et odieux et contre lequel le gouvernement n'a pas lutté, c'est-à-dire une épuration ethnique, religieuse, je dirais. Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus un seul copte qui reste à El-Arish, la grande ville du nord du Sinaï. Et le gouvernement n'a strictement rien fait. C'est la communauté copte qui a pris en charge ses coreligionnaires pour les installer soit à Ismaïlia, soit au Caire, soit à Alexandrie.
D'accord. Bon. Donc en gros, l'État central, le gouvernement central, laisse le Sinaï faire sa vie.
Non, il ne le laisse pas.
Non.
Mais il essaye de mener la répression, mais il n'y arrive pas. Je veux dire, avant-hier, il y a encore 18 policiers, soldats, qui ont été tués par une attaque de Daesh.
D'accord.
Tous les jours, il y a au moins un policier ou un soldat qui meurt sous les coups du terrorisme dans le Sinaï.
D'accord.
Et donc, c'est une région dans laquelle on me paierait fort cher pour que je n'irai pas, bien
d'accord.
sûr.
Ouais, ouais.
Il y a d'autres régions comme ça, en particulier les oasis du désert occidental, du désert libyque, mm-hmm. en particulier Bahareya. Bon, il se trouve que j'ai de la famille par alliance. Je ne peux plus y aller, c'est terminé.
D'accord. Ah oui, c'est.
Non.
Il y a quand même des zones un petit peu de non-droit, du coup, en Égypte, et des foyers très, très actifs.
Oui.
Et qui tentent de déstabiliser le pays avec des...
Oui, et puisqu'on ce qu'ils mettent en place comme type de répression, ça ne peut pas marcher. Tant qu'on ne règle pas les problèmes sociaux et économiques, ils vont toujours attirer du monde, ces terroristes, en leur promettant je ne sais quoi. De toute façon, ils peuvent promettre n'importe quoi.
Ouais,
c'est...
Et alors justement, sur le plan économique, tu disais que c'était extrêmement difficile. Une population, tu disais deux tiers qui vit avec...
Un tiers qui vit avec moins
d'un euro par jour.
Oui, le deuxième tiers n'est pas très très riche
non
plus.
1,50 €, d'accord.
Voilà, et puis bon, je veux dire, moi quand je fais mes courses, je vois bien, hein, du jour au lendemain, comme les prix ont augmenté, bon ça va, hein, moi je peux acheter, mais je veux dire, quand on supprime les subventions pour le pain, c'est dramatique. Il y a des gens qui ne vivent qu'en mangeant du pain avec un petit peu, peut-être une tomate, un oignon, sûrement pas les olives parce que c'est presque du luxe. Je veux dire, il faut savoir qu'en arabe, en dialectal égyptien, pain, c'est aish, c'est-à-dire la vie.
D'accord.
Donc on mesure à quel point le pain est important. Quand on dit gagner sa vie, c'est on gagne sa miette de pain. En dialectal égyptien. Donc, voilà.
Et alors, tu nous as parlé... parce que, bon, quand même, juste pour resituer, c'est quand même un pays fournisseur de pétrole et de gaz. Donc, quand même quelques richesses. Il y a le tourisme.
Alors, je t'arrête sur l'histoire du gaz et du pétrole. Effectivement, l'Égypte a été exportatrice de gaz et de pétrole pendant très longtemps, mais ça fait bien 4-5 ans qu'elle est obligée d'importer, d'où les difficultés économiques.
D'accord.
Mais elle va de nouveau devenir exportatrice puisqu'on a trouvé un champ gazier au large du delta du Nil. C'est un petit peu la même poche que le champ gazier qu'il y a au large de Raza et d'Israël,
hein,
et qui est partagé avec Chypre.
Mm-hmm.
Hein. Donc, mais le temps qu'on le mette en... Je ne sais pas comment on dit, en exploitation.
En exploitation,
je ne sais pas. Ça va bien demander 2-3 ans. Hein.
Donc c'est un pays qui est quand même face à des... Comment dire? Qui n'a finalement pas tant de ressources que ça.
Si, il en a, mais elles sont accaparées. Elles sont accaparées. Mm. Et puis, alors, quand même, il faut quand même que je dise quelque chose. C'est que il y a une croissance démographique énorme.
Est-ce qu'on l'a dit, hein, c'est 92 millions d'habitants.
C'est 93 millions.
Maintenant
c'est 93 millions. Et c'est quand même un pays où, malgré la grande misère que je décris, malgré l'augmentation des prix, etc., on ne meurt pas de faim comme dans le Sahel ou dans l'Afrique subsaharienne. C'est pas du tout... c'est pas ça, quand même. Donc... On valorise le désert, la route qu'on appelait la route du désert entre le Caire et Alexandrie, tout du long, ce sont des cultures, des cultures vivrières.
D'accord. Donc, il y a de l'agriculture,
il y a des possibilités.
Des terres productrices.
Alors, le truc, c'est qu'évidemment, on peut faire pousser des choses, mais il faut de l'eau.
Oui.
Or, il y a un problème de l'eau.
Il y a un problème d'eau en Égypte aussi.
Il y a un problème d'eau. C'est un pays qui est en souffrance hydrique au sens international du terme. Et surtout, il y a le danger de ce haut barrage qui va être construit en Éthiopie, le fameux barrage Renaissance.
D'accord.
Et qui va faire en sorte que l'apport principal du Nil en Égypte vient du Nil bleu en Éthiopie.
D'accord.
Et donc, avec ce haut barrage, automatiquement, il va y avoir des retenues. C'est évident.
Oui, donc, parce que pardonne mon ignorance, moi je me disais, en Égypte il y a le Nil, c'est un pays qui a une côte.
Oui.
Globalement, il y a pire, quoi.
Oui, mais la
par
côte.
Rapport à l'eau.
La côte, réchauffement climatique.
Ouais.
Réchauffement climatique. On sait très bien que dans quelques, enfin, je sais pas combien, quel est le délai. Alexandrie sous l'eau, hein.
D'accord.
Alexandrie sous l'eau.
L'océan.
La mer prend, grignote. Salinisation des terres. Aussi.
Oui, d'accord. Donc, difficultés.
Il y a beaucoup de défis écologiques. Hein.
Et alors, tu nous as dit que le FMI était venu faire son petit plan de redressement comme un petit peu partout. C'est-à-dire que le FMI vient faire un plan de redressement sans exiger une meilleure répartition des richesses.
Le FMI Le FMI,
la société. Elle est taquine.
Elle est très taquine. Non, le FMI, jamais. FMI regarde les comptes.
Il n'est pas pour la répartition.
Il regarde les chiffres, point à la ligne. C'est la seule chose qui l'importe. Et même s'il voit que... Parce que, les recettes qui sont appliquées à l'Égypte, elles ont été appliquées dans plein d'autres pays auparavant.
Oui, ça veut dire qu'il y a une recette appliquée un petit
L'Argentine, le Chili, en Amérique latine, ils ont tous connu les plans du FMI. On a vu ce que ça a donné. Mm-hmm. Bon, on recommence.
Et on continue
comme avant.
Et donc là, l'Égypte s'est vue accorder un prêt...
Un prêt de 12 milliards de dollars en trois tranches. L'octroi de chacune des tranches étant subordonné à l'adoption de certaines mesures qu'il venait vérifier après coup.
Un petit peu de privatisation.
Limitation des salaires, surtout pas le salaire minimum comme ce qui était exigé au moment de 2011.
De là à dire que le FMI pourrait participer à l'appauvrissement de la population, il n'y aurait qu'un pas qu'on ne franchira peut-être pas.
Moi, je le franchis.
D'accord.
Peut-être que tu ne peux pas le faire, mais moi, je peux le faire.
Non, sur ZEF, on a une forme de liberté de parole. L'Égypte a réussi à doubler la taille de son canal de Suez, donc c'est qu'a priori, il y avait quelques moyens. Et donc, on prête de l'argent quand même en exigeant encore moins, finalement, pour la population.
Mais le doublement du canal de Suez a été fait par l'armée, par des conscrits qui n'étaient pas payés.
C'est ça.
Ah, voilà.
C'est ça, le truc. C'est beaucoup plus facile comme ça.
Voilà, sachant que le service militaire dure 3 ans quand même pour ceux qui n'ont pas de diplôme.
Oui, d'accord. On va finir parce que le temps passe, notre sablier s'écoule et je vois tout le monde s'agiter avec panique dans le studio. Non, Jérémy et Véro me disent qu'en fait...
Absolument pas. On pourrait peut-être faire juste une petite pause comme ça pour les oreilles.
Une petite pause alors. Faisons. On a parlé un petit peu de politique, on a parlé d'économie. Moi, je voudrais parler un petit peu de culture. J'ai vu, je ne sais plus dans quel magazine, qu'il y a quand même une scène, malgré la répression, malgré un climat politique et social qui a l'air compliqué. Il y a des gens qui s'expriment notamment par la musique. Apparemment, il y a une jeune scène musicale. On en est où ? Le Caire confidentiel. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas. C'est un film. C'est un réalisateur égyptien, mais
qui vit en Suède.
Voilà, ce qui est beaucoup plus facile.
Et ça n'a pas du tout été tourné au Caire. Ça a été tourné à Casablanca.
Voilà, c'est ça. Ouais,
la prod était au Caire pendant 2 mois ou 3 mois, et à 2 jours du tournage, on leur a dit ah non.
Ouais,
la censure n'accepte pas.
Voilà, c'est ça. Donc, on a quand même un climat qui est lourd. Et ouais. on a quand même une scène musicale qui existe, des gens qui s'expriment. Moi, le reportage que j'ai lu m'a fait penser à un film qui s'appelle Les chats persans, en Iran, avec des musiciens qui sont super courageux, qui prennent des risques pour faire la musique qu'ils aiment. Voilà, moi, ce reportage, ça m'y a fait penser. Les jeunes, alors on va dire qu'on est jeune jusqu'à... Bon, on dira pas d'âge. Il y a des forces vives, il y a des gens qui s'expriment.
Oui, ça c'est clair. S'il reste quelque chose en ce moment de 2011, c'est bien du point de vue artistique. Alors tu parles de la scène musicale parce que c'est peut-être plus facile d'accès lorsqu'on est en France, mais il y a aussi les arts plastiques, il y a la photographie, il y a la chorégraphie, la danse, il y a des jeunes qui sont absolument extraordinaires et qui maintiennent malgré tout le théâtre aussi. Il y a des festivals un petit peu partout. Ils sont très aidés. Et c'est là quand même où on se rend compte que c'est important, par les centres culturels étrangers. Donc en particulier, je pense à l'Institut culturel suédois avec sa fondation Anna Lindt. Je pense à l'Institut culturel italien. Et puis quand même, last but not the least, quand même l'Institut français d'Égypte.
Quand même.
Voilà. Tous ces instituts essayent d'aider tous ces jeunes indépendants, mettent en place des résidences d'artistes avec des artistes étrangers qui viennent, avec des échanges incroyablement fructueux entre les deux rives de la Méditerranée. Enfin, c'est vraiment très, très, très intéressant.
C'est intéressant parce que c'est une autre façon de soutenir le mouvement, quelque part.
Bien sûr.
C'est ne pas sanctionner un État, mais c'est soutenir une forme de résistance par la culture, c'est agir un peu sur les...
Oui, parce que, en particulier, la France a beaucoup à se faire pardonner, quand même, hein, puisqu'elle a vendu je ne sais pas combien d'armes, pour des milliards d'euros d'armes à l'Égypte, des frégates, des rafales, des hélicoptères, j'en passe et des meilleurs. Le Drian est allé quand même 5 fois... en Égypte. Il a été décoré de l'ordre, je ne sais plus si c'était l'ordre du Nil ou je ne sais pas quoi.
Récemment
La dernière tout à fait récemment.
D'accord.
Alors avant, c'était en tant que ministre de la Défense. Là, c'était en tant que ministre des Affaires étrangères. Mmh. Et puis, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle de la Défense. 3 jours après sa nomination, elle était au Caire. Hein.
D'accord.
Bon.
Oui.
Donc
ça va. On a des bons contacts avec le maréchal.
Voilà.
D'accord.
Mais,
on peut faire de la culture en sous-main à côté.
Voilà. Voilà.
D'accord.
Donc, faut quand même pas oublier ça, cet aspect des choses.
D'accord.
Bon. Et puis, il y a des syndicats, quand même.
Ah, oui.
Alors, il y a des syndicats.
Au chapitre.
Il faut savoir qu'avant 2011, il n'y avait que des syndicats d'État et qui, en fait, étaient des courroies de transmission du pouvoir central. Et que, justement, 2011 a été annoncé par la grande grève de 2008 à Mahal al-Kobra, qui est un grand centre textile du Delta, 30 000 ouvriers, hein, c'est quelque chose d'énorme. Et donc ils ont réussi à mettre en place des syndicats indépendants qui ont beaucoup de mal à agir en ce moment, mais enfin ils existent. Il y a des partis politiques tout petits, mais ils existent.
D'accord.
Et j'ai bon espoir.
Ouais, oui, voilà. C'est ça. Parce que
je suis sûre que ça va repartir, parce que de toute façon, toutes les raisons sont là pour que ça reparte.
On a commencé cette interview en demandant comment va l'Égypte. Ce n'était pas forcément glorieux. Si on termine en disant en posant la question de comment vont les Égyptiens.
Les Égyptiens...
Toi, tu as de l'espoir. Est-ce que eux, ils en ont? Ouais.
Pas la majorité. C'est minoritaire. Ce que je, enfin, il faut que j'avoue quand même que je suis minoritaire à dire ça. Il faut que je l'avoue.
D'accord. Il y a eu une forme de déception et
les gens, j'ai l'impression. C'est pas de la résignation. C'est franchement, c'est tellement dur de vivre. C'est tellement, enfin, même moi qui ai des moyens, quand même, je me rends compte que c'est plus difficile pour moi de vivre le quotidien. Faire les courses, je ne sais pas moi.
Tu as vu la différence là.
Ne serait-ce que faire sa lessive parce qu'on n'a pas d'eau tout le temps.
D'accord.
Par exemple. Enfin, c'est des choses peut-être idiotes.
Mais c'est des choses du quotidien du
qui peuvent paraître. Mais c'est la vie, ça.
Qui raconte la vie, oui, tout à fait.
Et par exemple, dans les oasis où il fait plus de 40 degrés, je veux dire, c'est 2 heures d'eau tous les 2 jours ou 3 jours. Moi, la dernière fois que j'y suis allée, je suis allée acheter de l'eau. J'ai acheté de l'eau. Je veux dire, c'est inouï, ça. Donc, la vie est difficile à vivre. Les gens, ça leur prend la tête aussi.
Ouais.
Je veux dire, vivre.
Il faut de l'énergie. Survivre. Il faut de l'énergie pour... Voilà.
Alors, les jeunes en ont, bien sûr, les jeunes.
Mais jusqu'à
les
quand
jeunes. Voilà. Alors, moi, j'ai espoir.
Ils partent, les jeunes, ou ils...
Il y en a qui partent. Ouais. Et particulièrement les Coptes. Les États-Unis, le Canada, l'Australie. Parce qu'il y a une ancienne émigration assez ancienne. Et malheureusement, dans ceux qui se noient en Méditerranée, maintenant, il y a des Égyptiens. Malheureusement.
Merci, Elsa. Pour cet état des lieux un petit peu de l'Égypte. Merci de nous avoir éclairés.
Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que terminer sur une petite note quand même d'espérance, c'est pas mal.
Ça fait du bien.
On va
faire une petite pause musicale. Exactement. Et en fait, on va demander à Elsa de nous l'annoncer parce qu'on aurait trop peur d'écorcher et le titre et l'artiste.
Alors, il s'agit de Kosai Omedonia, fait par le groupe Sadat and 50. Alors ça, c'est pas de l'arabe, hein. Sadat and 50.
C'est parti.
متقال عنها في كتابه الكريم أم الدنيا ده العنوان ادخلوها آمنين أرض الملوك بلد البشوات بلاد النيل بالأهرامات سد علي أزهر كنيسة ناصر والسادات زحمة يا دنيا زحمة سباق شوارع ما فيش رحمة شهامة بساطة من غير ألاطة كل حب أيوة سلام كبير لشعب قلبه كبير عايشين الحلوة والمرة بس الخير موجود كتير شايفين الوضع وشكله والناس راضين عايشين حاسين ظلمه ومشاكله والعالم حمدك شاكرين أيام زمان كان كلام تمام ياريته يرجع تاني دلوقتي آن أوان فرض النظام من الأغاني عبد المطلب عبد الوهاب أمه كلثوم وحليم سيد درويش سيد بكاوي والناس الطيبين أهل الكرم أصحاب ضيافة حاجة تسر العين هتروح تزور السيدة وتطلع عالحسين في عروق المصريين النيل بيجري زي الدم لو شافك شايل هم هيقولك فك يا عم واخدينها كده بالساهل كل حاجة تعدي في ثانية واختك حطك لأن مصر هي أم الدنيا
سلام 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 قصاي ابن والسادات لمصر احلى كلام اضرب تعطيل سلام طب بص للامام انت في امان يا مان انت في امان يا مان معروفه لك النيل ابو كفر ايه وصغير في النص مصر كتير شعبها طيب ويحير في الحزن قبل الخير وعمره في يوم ما اتغير ده اسم مصر كبير بس احنا بس نتغير
This is the Middle East Hollywood أول أفلام شفناها Art never misunderstood من شخصيات عرفناها من جوجي وطنطا مفطوطة وفوزي رمضان أهلاوي ولا زملكاوي الكورة هنا جنان Got my immunity from the Egyptian community I live in love caring people True definition and meaning of the word unity فراعنة أفارقة عرب جنود جيش منصور أحلى فن وطرب شعر وكتابة ونور Ancient civilization lasted over thousands of years Historical figures and events broken down to my peers You will never understand The spirit is so exquisite Better put that in your plan Come here once and you'll revisit زي كده ما تشوف وطنية يحبوا بلدهم بلا رجوع ومهما تحاول تفرق بينهم انسى الموضوع
Un œil ailleurs, des nouvelles du monde, sur Studio ZEF.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Si au détour d'une conversation entre amis, vous êtes amené à parler du cinéma grec, ce qui semble hautement improbable, vu le peu d'intérêt que l'on porte à ce pays et à son cinéma. Il ne fait aucun doute que Zorba le Grec, film sorti en 1964 de Michael Kakoyanis avec Anthony Quinn, dansant le Sirtaki, après s'être tapé un bon gueuleton sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, sera le premier titre qui viendra à l'esprit d'un ami qui vous veut du bien. Alors, pour cette première chronique cinéma, je veux réparer cette injustice nom de Zeus et en vous parlant du film Xenia de Panos H. Koutras. Odyssea, 18 ans, interprété par Nikos Gelia, et Dani, joué par Kostas Nikouli qui a 16 ans, deux frères qui semblent n'avoir pas grand-chose en commun à part une mère qui vient de mourir et un père qu'ils nomment l'innommable, se retrouvent liés autour du même objectif. Retrouver ce père qui les a laissés tomber quand ils étaient petits et le persuader de les reconnaître. Ils vont partir sur les routes de Grèce et croiseront oiseaux de nuit hostiles ou accueillants ou autres personnages et expériences comme autant d'étapes obligées pour parvenir à l'âge adulte. Dani et Odyssea sont albanais par leur mère et grecs par leur père. Double identité inquiétante pour les deux frères et aussi dans le regard des autres. Avec son look décalé de teenager, à l'homosexualité clairement assumée et son caractère volcanique, Dani se retrouve tour à tour agressé par une bande d'homophobes albanais et menacé par des fascistes grecs. Odyssea, quant à lui, tout aussi sanguin que son frère, avec une voix de Latin lover héritée de sa mère, espère gagner un concours de chant en interprétant le slow italien préféré de celle-ci. Dani et Odyssea s'aiment et se détestent, se protègent et s'abandonnent au gré de leurs aventures helléniques dans le décor d'une Grèce qui n'est pas épargnée par les populismes les plus violents. La situation politique de la Grèce en 2014, date de la sortie du film, n'est pas évoquée de manière frontale. Il n'y a pas de discours ou d'accusations clairement affichées, mais c'est plutôt par quelques embardées narratives ou situations absurdes vécues par les deux frères que l'on perçoit la crise de tout un peuple. On s'attache immédiatement à ces deux gamins un peu paumés, mais jamais défaitistes. Entre drame et comédie, les acteurs principaux jouent aussi bien la larme à l'œil et les violons qui vont avec que l'énergie du désespoir de sales gosses dansant sur du bon son bien kitsch. Les autres personnages tout aussi sympathiques et décalés que nous croiserons tout au long du film s'appellent Lefteris, Tassos, Vivi, Marisonia, Antigone et la chanteuse italienne Patti Bravo, que tout le monde a injustement oubliée alors qu'elle a quand même été la première interprète pop diffusée en 1966 sur Radio Vatican. Le réalisateur de Xenia, Panos H. Koutras, construit ses films comme sa vie, dit-il. Je ne sais pas si c'est valable pour le nanar bien gras qu'il réalise en 90, au titre qui ferait rêver Bocuse et les Trois Gros, L'attaque de la moussaka géante. Ou bien était-ce un film d'anticipation? Qui sait? Pour achever de vous mettre en appétit, les ingrédients de Xenia sont la pop et le rock des années 70, une pointe de référence à la mythologie que les enfants grecs apprennent à l'école, la culture gay, ou encore un clin d'œil au lapin d'Alice au Pays des Merveilles que l'on rencontre dans des séquences onériques sorties de l'imagination de Dani. Xenia, c'est le nom d'une chaîne d'hôtels des années 70. Et à la fin du film, les deux frangins vous diront comment prononcer ce mot, à la fois sucré et acide, comme le film. Xenia, de Panos H. Koutras, film sorti en 2014, DVD disponible dans votre bibliothèque préférée.
Teach me to dance. Will you?
Dance? Did you say dance? Come on, my boy.
Et bien voilà, je crois que c'est la fin de l'émission, hein, notre
nous
première.
Nous y sommes. Hein. Voilà déjà le générique de fin. Déjà, dit-elle, alors que tout le monde est transpirant au terme d'une heure d'émission.
Eh bien, pour la peine, on recommencera le mois prochain.
Exactement. Voilà, exactement.
Et il faut une première, c'était la première. Elsa, encore merci beaucoup. Vous êtes
merci
restée
d'être
en plus jusqu'au
jusque
bout.
Là.
Jérémy, merci beaucoup. Hein. Tu reviens aussi, hein. Bon, on compte sur toi.
Il fait des signes de tête. Jérémy s'est donné un point d'honneur. Il ne prononcera pas un mot pendant cette saison.
Alice, merci beaucoup de m'accompagner dans cette aventure.
Eh bien, c'est avec grand plaisir.
Merci aux auditeurs et auditrices de Studio Joseph.
Que l'on espère nombreux et fidèles.
Bah, comme d'habitude.
Voilà.
Voilà,
merci à Guillaume de nous faire confiance
bien sûr,
quand même.
Allez,
voilà.
Ouais. Et puis on se retrouve le mois prochain.
On se retrouve le mois prochain pour un programme qui est encore à parfaire.
Exactement. À bientôt à la radio.